Mais il me semble que dans ce matériau, il y avait effectivement ce clivage entre la personne qui vient nous voir et parler avec nous, et puis la pratique dont elle parle d'une certaine façon, hein, le fait que aucun des artistes qui étaient là n'a voulu se poser comme auteur de sa pratique. On pourrait dire ça comme ça, hein, pour utiliser ce concept d'auteur dont Foucault parle beaucoup, hein, pour le mettre en cause. Hein. C'est-à-dire que il y avait une espèce de séparation clairement posée entre la discussion, hein, la discussion sur le travail, et puis celui qui discute, hein, et l'artiste. Moi j'ai trouvé moi je ne pense rien de ça, je le constate. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire, je le constate parce que ça archaïse énormément, par exemple, tous ceux qui sacralisent la parole de l'artiste ou qui, dans le travail, utilisent les discours de l'artiste pour interpréter l'œuvre, etc. Je ne dis pas que ce soit méthodologiquement, forcément indu. Je pense qu'il y a il y a certainement des époques et des œuvres où c'est parfaitement valable de le faire. Et par exemple, pour Boulez, ça me paraissait, le travail que vous avez fait, ça me paraissait très bien, enfin, je veux dire, dans la circulation entre les deux. Parce que je pense que c'était très, très adéquat, hein, par rapport au travail de Boulez et à l'époque où Boulez travaille. Mais je voyais ça comme un événement intéressant, de cette convergence, hein, de positionnement entre tous ces artistes qui sont quand même, j'allais dire, tous assez hyper conscients, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans la position d'une sorte d'auto-analyse constante du travail, comme on a pu le voir à travers le caractère hyper élaboré quand même des théories qu'ils produisaient. Hein, on ne peut pas dire que c'était des gens qui faisait l'artiste, hein, pas du tout, hein. Donc il y avait à chaque fois une théorie extrêmement consistante du travail et une très très grande pertinence théorique quand même, hein, une très grande manière de positionner rationnellement ce qui était en jeu, et je trouvais que cet écart entre l'artiste qui vient parler avec d'autres de ce qui est produit et puis la pratique était pour moi un matériau de réflexion intéressant sur justement sur ce qu'on avait déjà engagé sur la question du jugement, c'est-à-dire de la disjonction, hein, puisqu'on a défini véritablement le jugement comme ce moment de l'interruption, hein, entre une espèce de détournement, hein. Vous vous souvenez que chez Kant, le jugement, c'est ce moment où, au fond, l'opération d'imagination qui devrait être naturellement rapportée au schématisme, tout d'un coup, est, hop, hein, interrompue dans ce trajet, on va dire, presque, j'allais dire, automatique, pour être apportée autre chose. Hein. Et voilà, et on peut dire que ce qui était intéressant, c'était de voir que cette disjonction, qui pour moi est vraiment la caractéristique du jugement et aussi la caractéristique de la critique, eh bien, elle était complètement centrale, hein, à chaque fois. C'est-à-dire, on voyait un refus, j'allais dire, de l'agglomération de l'individu et de sa pratique. Et avec l'idée que peut-être, enfin, moi, il ne s'agit pas de sauver l'idée de l'autonomie, hein, qu'il y avait véritablement là deux niveaux qui étaient posés avec l'idée que d'un côté celui qui parle avec nous est pris dans une critique très très puissante même de son identité en tant qu'artiste, hein, et au fond tous problématisaient cette identité d'artiste, hein, tous, et en même temps il y avait cette idée qu'il y avait une espèce de mise en jeu dans la pratique d'une, alors moi, de ce que j'ai appelé une passivité, un abandon, mais je crois qu'on l'a retrouvé tout à l'heure, et Lambert disait bien que c'était un mot sur lequel il fallait, enfin c'était un concept sur lequel il fallait développer, et je crois qu'il a raison, où là il y avait effectivement quelque chose comme quand même une autonomie au sens où il y avait il y avait une espèce d'autorégulation, en tout cas, de ce qui se passait au niveau de la pratique. Voilà. C'est tout. Hein? Et il ne s'agit pas du tout de revenir à une idée romantique de l'artiste tout seul dans son atelier, en train justement précisément de s'identifier comme artiste à son œuvre. Hein. Ce n'est pas du tout ça qui a été dit. Hein. Il s'agit, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein.
Au mystère, ça rend très mystérieux l'atelier, je trouve.
Non, je serais bien la dernière à essayer de refabriquer du mystère. Non, il s'agit au contraire, on est là pour essayer de penser cette chose-là, donc on n'est pas en train d'essayer de refabriquer du mystère. J'allais dire tout au contraire, on essaie de comprendre tout simplement en quoi la pratique artistique, enfin, quel est le moment... comment intervient cette opération critique dans la pratique artistique? Voilà. Donc c'est tout. Donc, ce qu'on voit déjà, ce qu'on a vu déjà, c'est qu'on pourrait dire que la pratique artistique, elle est constituée par les artistes que nous avons, disons, interrogés, elle est constituée de manière critique, en étant comme ça posée dans la disjonction. Hein, c'est-à-dire que tout de suite, hein, je veux dire, il y a une espèce d'acte critique, hein, dans cette disjonction entre, voilà, moi, Pierre Huyghe, l'artiste hyper célèbre qui représente la France à toutes les biennales, etc., je viens discuter avec vous, d'accord? Et là, j'explique qu'au fond, ce moi construit, social, etc., je ne sais pas plus que vous ce que c'est, je suis d'accord pour en parler. Et puis, par ailleurs, il y a ces choses que je fais, et cette pratique qui m'embarque, hein, dans laquelle je suis embarqué, et je suis embarqué dans des représentations sociales, hein, dans des représentations culturelles. Voilà, et là je suis agi, voilà. Et ne serait-ce que le fait de poser cette disjonction, à mon avis, déjà, ça place la pratique sous les auspices de la critique. Je ne voulais pas dire plus que ça, mais ça m'intéresse déjà qu'on ait ce fil. Hein. Jugement, disjonction, critique, pratique. Voilà. Parce que c'est une confirmation qu'on est sur une bonne piste. Voilà. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez en quoi il n'y a pas de mystère là-dedans?
Oui, mais je trouve que le suspens dont on parle, c'est le suspens qui a lieu justement dans la pratique. Il n'a pas lieu dans le discours.
Mais il a lieu d'abord entre le discours, d'une certaine façon, et la pratique.
Oui, mais certes.
Et s'il a lieu dans la pratique, c'est sans doute parce qu'il a lieu d'abord avant, finalement. C'est-à-dire que la pratique, elle est mise sous les auspices d'une certaine suspension, hein, ou d'une certaine disjonction. Vous voyez ce que je veux dire? Que cette disjonction inaugurale, elle se répercute ensuite dans la pratique, hein, à un autre niveau et sur d'autres modes ou dans d'autres registres.
Par exemple, le suspens qui est important chez l'imagination, c'est justement quelque chose qui serait de l'ordre de ce qui se passe à l'intérieur de la pratique.
Bah, chez Kant, il ne s'agit pas de pratique en l'occurrence. Hein. Il s'agit de jeu facultataire. Oui. Oui, je ne vous dis pas que ça n'existe pas dans la pratique. Moi, je pense effectivement que c'est ce que j'ai essayé de montrer pour Michaud. Hein. Je pense que c'est fondamental dans la pratique, mais je pense que c'est d'autant plus fondamental dans la pratique que la pratique elle-même est inaugurée par ce geste de suspension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la critique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un geste critique qui est constitutif de la pratique en tant que telle, et qui ensuite se répercute, j'allais dire, à différents niveaux de la pratique elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Alors, c'est que je ne le dis pas clairement. Ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est que... Le suspens dont nous parlons et que nous avons appris, qui est en fait métonymique du jugement, d'accord? Ce que vous me dites, c'est que ce suspens, il est définitoire de la pratique.
Oui.
D'accord? Voilà. D'une certaine façon, je ne vous dis pas une chose tellement différente. Quand je vous dis il est tellement définitoire de la pratique, hein, que d'une certaine façon, il est constitutif de ce qui va faire que la pratique est bien et la pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il est, il constitue l'hospice même de la pratique. Et que cette disjonction, elle est opérée déjà, hein, entre ce plan de subjectivation qui est celui où Pierre Huyghe, artiste français, célèbre, etc., vient ici nous parler, etc., hein, et que nous appellerons pratique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette disjonction, elle est absolument, elle est nodale. Hein. Elle n'est pas seulement mise en œuvre dans la pratique. Hein. C'est pas une opération, je vais dire, secondaire de la pratique. Elle est, je veux dire, elle est là avant. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Oui, Julie.
Ici nous parler, continue sa pratique d'une certaine manière. Est cohérent et continue à pratiquer, à être dans sa pratique artistique.
En disant que précisément, il
s'agit pas qu'il s'autorise, oui, qu'il s'autorise à se déplacer,
oui.
Qu'il s'autorise à se déplacer, exactement comme il s'autorise le déplacement entre plusieurs types d'enregistrement de la réalité, il s'autorise à se déplacer aussi dans sa. À l'intérieur même de sa pratique, en venant parler de sa pratique. Voilà.
Être déplacé par la commande.
Voilà, c'est ça.
Sans s'identifier à cette commande.
Il le dit d'ailleurs. Vous m'avez invité, je suis dans un certain cadre, dans un séminaire, il y a des tables. Enfin, j'ai réécouté l'enregistrement. C'est exactement comme si on me demandait de faire une œuvre pour tel endroit, à telle occasion. Voilà, je viens vous parler. C'est exactement la même chose. Il répond à une commande. Donc, il continue à réagir de la même manière que... Enfin, pour moi, c'est absolument pas contradictoire.
Non, moi non plus. Hein.
Ouais.
Parce que...
C'est une autre façon de prendre le problème. Mais ce qui veut dire que cette opération de disjonction, elle est vraiment constitutive de la pratique, ce qui veut dire qu'elle est déterminante pour qu'il y ait pratique. Vous comprenez ? Peut-être que Lambert peut éclairer ?
Moi, j'étais en train de me dire... En fait quand on demande à un artiste de parler de sa pratique... Il peut absolument dire n'importe quoi, et donc on peut pas tellement se fier à lui. Mais en même temps, de fait, il dit jamais n'importe quoi. Et à la rigueur, la question qui est presque une question d'ordre transcendantal, c'est comment ça se fait que comment ça se fait qu'on comprend quand même quelque chose quand il parle de sa pratique. Ça me fait penser au paragraphe chez Kant sur le génie. Il dit le génie, c'est la nature qui donne ses règles à l'art. Il dit d'un côté il y a la technique, paf paf paf, les règles, puis d'un autre côté il y a le génie, et bien on ne sait pas ce que c'est. Et donc voilà, il y a un truc disjonctif, mais je m'exprime très très mal, mais disons il y a un truc hyper bizarre qui fait que un artiste, sa pratique, ça fait des choses, c'est une pratique artistique. On peut pas le subsumer sous un concept, c'est-à-dire on peut pas en faire le mode d'emploi, mais pourtant c'est compréhensible. Et donc il y a une sorte de peut-être que en fait je réponds très très mal à la question, mais disons il y a un truc vachement bizarre qui fait que d'un côté que c'est comme si on était dans l'incommensurable sans être dans l'indicible. Donc, il y a un truc ultra ultra spécial qui fait que quand un artiste parle de sa pratique, on comprend quand même ce qu'il dit. Et j'ai l'impression que c'est là-dedans que se joue cette espèce de distinction qui n'est pas une opposition, qui n'est pas non plus une négation entre ce qu'on a nommé le discours de moi artiste, je fais ça, et l'artiste quand il le fait. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair.
Non, mais, en tout cas, je pense que vous répondez très bien à l'idée du mystère. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr, on n'est pas du tout dans la reconduction du mystère. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, à travers cette disjonction, cette opération de disjonction, il ne s'agit pas de reconduire je ne sais quelle opacité, ni d'ailleurs de dissoudre l'opacité. Ce n'est pas du tout la question. Et ce que dit Lambert, quand il parle de l'incommensurable qui n'est pas pour autant indicible, je crois qu'on en a fait l'expérience ici plusieurs fois, au moins trois fois. Donc c'est tout à fait juste, tout à fait intéressant. Oui, Laurence.
Non, moi je crois que y a... enfin, peut-être que je vais poser une question parce que je comprends toujours pas la question là, qui a été posée sur les deux modes de subjectivation. J'arrive pas à voir. Il y a quelque chose qui résiste, donc je crois que je comprends pas. Oui, il y a quelque chose que je comprends pas. Alors je vais poser la question sur un mode un peu, on va dire suspicieux.
Oui.
C'est-à-dire que quand, bon, je suis un peu désolée parce que j'étais là quand il y avait Pierre Huyghe, mais bon, moi je trouve toujours très intéressant d'entendre les artistes parler de ce qu'ils font, quelle que soit la manière dont ils en parlent d'ailleurs, et quel que soit le lieu, hein, la manière dont ils prennent la parole. Mais en revanche, quand il dit « je viens pour vous parler », mais alors j'ai compris ce qui a été dit tout à l'heure, mais je crois que c'est pas la même chose effectivement. Je viens en tant que, je sais plus comment vous avez dit ça, en tant que Pierre Huyghe, mais pas en tant que, oui, mais en même temps, moi, à chaque fois, parce que c'est pas le seul à dire ça, effectivement, on l'entend souvent. Je me dis, mais c'est un peu de la dénégation. Parce qu'il est quand même invité en tant que cet artiste qui a produit ses œuvres. Ce qui nous intéresse, c'est son travail. Et c'est pour en parler qu'il est là. Et donc, du coup, c'est quand même... C'est la question de l'identité. C'est-à-dire, il parle en tant qu'artiste et il vient ici en tant qu'artiste pour parler de son travail à lui. Ah, on est d'accord là-dessus.
Vous posez exactement... C'est la question de l'identité. C'est ça qui remet en cause. C'est ça que Foucault appelle la politique pastorale. C'est l'identité.
Ah, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est en plein dans le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, Pierre Huyghe, en disant... je ne suis pas identifié... Enfin, dire je refuse... Hein, l'espèce de, disons, d'équivalence entre celui qui vient vous parler et les pratiques, hein, qui portent son nom, puisque c'est quand même ça au fond, hein, avec évidemment le double sens, hein, des pratiques qui portent son nom, c'est-à-dire je sais que je suis un produit marchand, dont acte, voilà. Et par ailleurs je fais des choses dans lesquelles je suis embarqué, voilà. Qui, bon, donc il y a encore des clivages encore ensuite à opérer. Bon. Mais en tout cas, ce dispositif, on va dire, d'étagement, hein, des plans de subjectivation, de démultiplication de ces plans de subjectivation, qui fait que je disais à Manuel que on n'était plus dans un schéma dialectique. Là, hein, c'est quelque chose qui est une manière de s'opposer... Hein, et de critiquer, hein, en tout cas de ne pas marcher dans ce qu'on a appelé, dans ce que Foucault critique sous le nom de politique pastorale, hein, qui est ce que j'ai appelé tout à l'heure la police de l'âme, hein, qui est cette fabrique de l'identité. Et on voit bien que c'est bien ça le noyau, j'allais dire, le noyau d'une partie consistante de l'activité artistique aujourd'hui. C'est effectivement, et ce qui, à mon avis, permet de la définir comme critique, ou permet de la comprendre en la mettant sous les auspices du jugement, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est véritablement ce refus, hein, ou ce, disons, oui, cette lutte, hein, contre cette politique pastorale reconduite sous différentes formes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre. J'enregistre ce refus, par ailleurs, que je comprends, auquel je serais tenté d'adhérer d'une certaine façon. Oui.
Ce que je crois comprendre de ce que tu dis, c'est que, en fait, quand tu dis dénégation, c'est vrai que se présenter comme ça pourrait être également un argument marketing. Ouais, disons que, en fait, ça peut pas constituer un argument objectif philosophique. De dire qu'on a eu la chance d'avoir trois artistes qui exprimaient verbalement leur désubjectivation. Ça pourrait tout à fait être aussi répondre à la commande de l'institution que de se présenter sur un mode comme ça, de se présenter sur un mode anti-romantique, quoi, pour dire les choses de manière un peu rapide. Donc c'est juste qu'on a des preuves rétrospectives.
Alors,
de ce qu'on pose.
Moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je serais d'accord avec ce que vous dites, Lambert.
Si effectivement ils avaient fait de cet argument de la désubjectivation, j'allais dire de manière perverse ou dialectique d'ailleurs, une manière d'identité. Parce qu'il y a aujourd'hui effectivement Excusez-moi, je suis en train de me mettre en retard à un rendez-vous. Il y a aujourd'hui une quelque chose de très très banal qui consiste à faire de cet argument de la désubjectivation l'emblème de l'identité. Véritablement. Alors ça, on peut dire que c'est une des ruses, parmi les ruses innombrables du marché, c'en est une. Me semble-t-il, aucun d'eux n'a rejoué ça sur le mode d'une identité possible ici. C'est-à-dire que la façon dont ils l'ont joué, alors ça ensuite on peut en discuter, mais il m'a semblé qu'ils ont été quand même tout à fait... Ils n'ont pas refait de ce dispositif de dialogue, parce que c'était aussi un dispositif de dialogue, j'allais dire, ils n'ont pas joué de ça de manière à se réidentifier à travers ça. Je trouve pas du tout. Voilà. Enfin, si je pars de l'expérience qui a été la mienne durant ces trois séances, puisque finalement ils se sont véritablement exposés. Notamment Alexandre et Dominique. Parce qu'ils se sont quand même mis dans cette position extrêmement, finalement, compliquée pour un artiste de produire des textes de théorie, alors qu'ils savaient l'un et l'autre qu'ils n'étaient pas du tout théoriciens, hein, et qu'ils l'ont dit, c'est-à-dire d'avouer un peu cette espèce de part cachée, on va dire, hein, d'auto-analyse, et qu'en ce sens, ils prenaient un risque réel, enfin. Hein. Et je crois qu'au fond, Pierre s'est mis aussi dans une position de non-savoir, par rapport à lui-même, qui n'avait rien, enfin moi que j'ai jamais senti comme une espèce d'opération marketing, enfin je veux dire, il y avait aucune espèce de, enfin pour moi, hein, il n'y a pas eu d'opération de remarque, hein, alors que bien sûr, c'est une des ruses possibles, hein, et il y a des artistes qui le jouent comme ça, évidemment, hein, bien sûr, mais là j'ai pas trouvé que c'était le cas. Est-ce que ça répond un peu à votre question, Laurence? Pas vraiment.
Alors, pour tout dire, c'est pas du tout, le soupçon il porte pas sur une éventuelle instrumentalisation de ça, j'en ai pas la moindre, enfin j'ai pas du tout cette impression là. Ça porte plutôt sur le fait que pour moi c'est peut-être que des mots, en fait. C'est-à-dire que ça déplace pas grand-chose, alors peut-être que c'est ma position qui continue à être pastorale, possible.
Oui, c'est un peu ce que je voulais vous dire, oui.
Ouais. Non, mais, oui, bah alors bon, oui, alors bon, d'accord. Mais d'une certaine façon, j'en vois pas, peut-être, je n'en perçois pas les effets. Et la meilleure preuve en serait peut-être qu'il y en a qui peuvent s'en emparer pour le jouer sur dans l'ordre du marché. Et du coup, c'est bien peut-être l'indice que. Enfin, je sais pas. C'est vraiment sur le mode de la question, hein. C'est pas tranché, mais que puisque ça se récupère, les effets que ça produit ont pas été. Enfin, je sais pas où faut attendre, mais.
Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de résolution finalement très simple de ça. Moi, j'aurais tendance à penser que les soupçons sur la récupérabilité. Sont tellement, alors on peut tellement les émettre à propos de tout et n'importe quoi aujourd'hui qu'à la limite,
c'est pas le problème.
Intellectuellement, c'est difficile à exploiter. Ce que je vous propose, parce que là malheureusement, pour une fois, il faut vraiment que j'y aille. Hein. On se voit vendredi prochain à 17h. Et on se.